Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bon après-midi, bienvenue à l'émission. C'est toujours Vincent Dessureau qui est là, à l'absence de Mario, qui profite de ses vacances. Je lui ai envoyé un petit message tantôt pour lui dire que j'étais heureux qu'il ait finalement du soleil. Et il était tout aussi heureux, je pense. Alors, il en profite, se repose, sera de retour lundi prochain, sans faute. Bonjour, Alexandre.
Salut, Vincent.
On avait un point de presse, mais évidemment, l'actualité s'est encore bousculée aujourd'hui. Mais il y avait quand même une bonne nouvelle par rapport à la vaccination. On franchit quand même un cap important. On est rendu à 40% des Québécois qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Honnêtement, c'est impressionnant. Là. On est en train de rattraper le retard. Je regardais un peu à travers le monde. Ben, par rapport au Canada, on est un peu en avance. Le Canada, je pense, c'est autour de 36%. Et de par le monde, ben en avant, évidemment, pas le Royaume-Uni, ni Israël, ni les États-Unis. Il y a quelques petits endroits très riches où ils ont un peu d'avance. Mais si on prend l'Europe, on est en avance. Vous voyez, l'Allemagne est autour de 31%. Il y a beaucoup, par contre, de ça qui est, parce qu'on a vraiment, nous, on retarde beaucoup la deuxième dose. Je pense qu'on est à 3% des Canadiens qui sont pleinement vaccinés, alors qu'en Europe, c'est plus du 8-9. Mais ça a été une bonne stratégie parce que ça permet de rattraper le retard, d'offrir une protection au plus de monde possible. Et les deuxièmes doses vont arriver bien assez vite avec la quantité de vaccins qui arrivent, la machine qui roule à plein. Donc, c'est encourageant. La Suède, tu sais, qui est un peu l'Eldorado de bien des gens, c'est 26%. Là. Donc, on est en avance pas mal et on n'est pas prêt de reculer parce que je pense que les taux de vaccination sont très, très élevés chez nous. D'ailleurs, demain, ce sera les 35-40 ans qui pourront se faire vacciner. Et ensuite, on va descendre comme ça. Alors, ça dépend des régions, hein, les dates. Il y en a que ça va quand même déjà fin mai, mais j'ose croire qu'on pourra ouvrir des plages horaires pour les plus jeunes aussi qui pourront peut-être être vaccinés plus tôt que prévu. Je vous le souhaite. Alexandre, on reste dans ces annonces-là d'aujourd'hui, le point de presse de 13h. Et il y a une pression quand même qui arrive des industries qui sont sur pause là, depuis très longtemps pour un plan de déconfinement ou avoir une idée de ce qui s'en vient. Puis pour le gouvernement, avoir une idée de ce qui s'en vient à date, ça n'a pas été toujours possible.
Ouais, puis on n'a pas besoin de regarder très loin parce que en ce moment, des mots du premier ministre François Legault, on veut s'inspirer du plan de déconfinement de la Saskatchewan, donc l'autre province canadienne de l'Ouest, qui eux ont un plan qui est assez spécial, Vincent. Entre autres, dans ce plan-là, c'est pas juste des objectifs de date, mais c'est des objectifs de vaccination. Donc des cibles de vaccination qui sont associées à des assouplissements. Par exemple, ils prévoient autoriser les rassemblements de 10 personnes à l'intérieur, donc de rassembler des gens de plusieurs bulles comme ça, de rouvrir les restaurants 3 semaines après que la première dose de vaccin est administrée à au moins 70% des gens de 40 ans ou plus.
Okay.
Donc, dès le moment où il y a 70% des gens de 40 ans ou plus qui sont vaccinés, 3 semaines après, bing, bing, on embarque avec ces
assouplissements. Ils ont un barème clair, là.
Ils ont un barème clair.
C'est un peu dans les mains de la population. Là. Tu le dis, faites-vous plus vous vous faites vacciner, plus on franchit les étapes et on peut ouvrir.
Mais c'est exactement ce que la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, soulignait. Elle disait, c'est un très bon incitatif pour encourager la population à aller se faire vacciner. Là. C'est fini déjà là, de promettre, oui, dans tel nombre de jours, nous serons corrects. C'est un peu de mettre la balle dans le camp de la population, de dire, allez vous faire vacciner. Si tout le monde va se faire vacciner, on va pouvoir y avoir des assouplissements. Donc, c'est une approche qui serait similaire à ça. Là, François Legault qui disait même avoir demandé au ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire un plan pareil, avoir envoyé par courriel ce plan-là en disant « je veux quelque chose comme ça ». Par contre, on dit que ça pourrait être différent. Ici, entre autres, on suggère du côté de la santé publique de prendre en compte les différences régionales de la propagation de la COVID. Donc, de faire des paliers différents si on veut le déconfinement, dépendamment de comment progresse le virus dans certaines régions.
Bon, mais au moins, on parle de déconfinement, ça fait du bien.
Ça fait du bien et surtout, ce qu'il dit, c'est qu'il veut que le plan là aille très loin qu'on, tu sais, à chaque fois qu'on a annoncé des assouplissements, je sais pas si tu t'en souviens, entre autres là, au printemps dernier par exemple, à chaque fois qu'on disait il y avait 1000 questions qui se posaient, est-ce qu'on peut être 1 12 10 rentrant dans toilette, oui. Sortir.
Oui. Il veut un peu sur le coin d'une table, on le savait, on était dans l'urgence là, mais oui. On n'avait pas tout couvert, on arrivait au point de presse, puis là, on se faisait remettre d'en face tout ce qui fonctionnait pas.
Ouais, mais là François Legault il dit qu'il veut aller jusqu'à mettons on est 4 familles mais on est tous vaccinés, est-ce qu'on peut se rassembler en dedans, puis un peu dehors. Il veut que ça soit tout couvert. Il veut que le plan, là, ce soit expliqué, clair, qu'on puisse préciser dans chaque situation pour que les gens soient rassurés. Donc, c'est sûr que on attend ça. Ça sera un bon plan. Il veut l'annoncer dans les prochaines semaines, qui dit, il s'est défendu aussi d'avoir une approche trop prudente, parce que déjà en France, ils ont des taux de vaccination très bas, mais ils ont commencé à déconfiner tout de même. Il cite l'exemple de l'Ontario, bien évidemment. On sait ce qui se passe en Ontario. Les cas là, qui ouais. sont toujours hauts, les hospitalisations en très lente baisse, mais on veut pas se ramasser comme en Ontario.
Faut dire la France a un plan, mais il est pas encore en pratique. En fait, il commence, là, mais on est encore vraiment les deux pieds dedans là, en France. Alors, c'est beau de l'annoncer, mais tu sais, quand t'as pas encore l'épidémiologie pour le faire puis ouvrir, ça donne pas grand-chose. T'es mieux de travailler dessus puis éventuellement nous arriver quand t'es prêt. Là. Il y a pas d'urgence dans la mesure où tu peux pas l'annoncer, tu peux pas le faire. Je comprends que les commerces, les restos ont vraiment hâte d'avoir un plan. Je voyais qu'il y a des restos qui préparent leur terrasse. Là. Qui sont déjà en train d'y construire. Alors, ils tapent du pied. Là.
Mais il y a eu peut-être une confusion aussi autour de ça, parce que lorsqu'elle a été interrogée par rapport à tout ça, là, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui avait dit plus tôt aujourd'hui, là, espérer une réouverture des terrasses à Montréal le 1er juin prochain, à partir de là, Christian Dubé, déjà le ministre de la Santé, qui dit faut être plus prudent, il a invité les politiciens même à rester un peu tranquille, selon ses propres mots, à dire « attendez notre plan avant de commencer à promettre des bonbons comme ça à la population ». C'est sûr que ça peut éviter là, certainement de la confusion, mais à voir là, ce plan-là qui s'en vient. Disons que ça donne foi,
ah oui.
Dis-donc, puis même mais... s'il présente dans quelques semaines, je réfléchissais à ça, puis c'est, si c'est comme la Saskatchewan où on dit à partir de l'objectif, c'est 3 semaines plus tard, ben ça peut être rétroactif aussi. Peut-être qu'on a des cibles qui sont déjà atteintes dans certaines catégories et qui vont justifier des assouplissements beaucoup plus tôt qu'on le pense.
Beaucoup plus rapide.
Après la présentation du plan.
Et là, versus les autres réouvertures ou déconfinements qu'on a eues, ben là, on a une base solide. Là. Les autres fois, tout pouvait s'effondrer n'importe quand. C'est ça qu'il fallait malheureusement dire aux restaurateurs, aux hôteliers, se dire, ouais, ben là, on vous ouvre, mais tu sais, dans 2 semaines, on va peut-être tout fermer parce qu'il n'y a pas de vaccin. On ne peut pas combattre la COVID à part avec les confinements, ce genre de mesures-là. Donc, ça peut retomber n'importe quand. Là, on va avoir une base de gens vaccinés, de sorte que tu te dis, écoute, avec l'été qui arrive, éventuellement l'automne où ça reprend, mais là, à l'automne, on va être vacciné 2 doses. Je pense que la réception des Québécois et des Canadiens est très bonne, qu'on aura une bonne immunité. Puis on voit que les études par rapport au vaccin jusqu'à maintenant sont toujours rassurantes. Là, ce qui nous sort sur les variants, on avait vraiment peur à un moment donné, avec raison, mais il semble que les vaccins tiennent le coup. Je voyais Pfizer aujourd'hui qui annonçait qu'on était déjà à quelques mois de version améliorée du vaccin Pfizer pour les variants. Donc,
ils ont pas arrêté de travailler. Là. Les compagnies pharmaceutiques qui font les vaccins, ils s'assoient pas sur leurs mains maintenant. On a notre recette. Ils continuent d'améliorer constamment. Puis tu sais, ça en fait grincer des dents beaucoup là, lorsque Pfizer avait dit, par exemple, qu'il faudrait peut-être avoir des doses chaque année comme le vaccin contre la grippe, mais pour des virus qui mutent, comme celui-là, qui est très près de celui de l'influenza, par exemple, c'est normal de ramener tout ça. Disons qu'on est armé maintenant contre la COVID. Il faut juste que ça tienne pour l'instant puis qu'il n'y ait pas de flambe.
Parlant de vaccination des jeunes, ça avait fait déjà beaucoup jaser alors qu'on l'approuvait là chez Santé Canada. Là, on arrive à bon, quel sera le plan au Québec et ceux qui avaient hâte là, de vacciner leurs enfants, leurs ados, ben ça va se faire et visiblement avant deux doses avant la rentrée scolaire et une dose avant la fin de l'année scolaire.
Ça a été confirmé là par le ministre de la Santé Christian Dubé qui a dit que l'ouverture de la vaccination là donc aux ados de 12 à 17 ans ça va se faire, ça va être ouvert. Ils attendent encore là, du côté du gouvernement un avis final du comité consultatif national de l'immunisation. pour avoir les détails, là, pour les dévoiler véritablement, les détails de la vaccination, comment ça va s'orchestrer. Mais ils veulent donner à chaque jeune une dose d'ici la fin du mois de juin. Donc, en même temps que tout le monde. Là, donc, ils embarqueraient dans l'espèce de grand calcul où on ouvrait là une dose
la Saint-Jean,
minimum à
là.
Tout le monde, la Saint-Jean. Ils rentreraient donc dans ce calcul-là. Ça a été précisé aussi là qu'il y aurait une deuxième dose. On veut la donner en septembre, avant la rentrée scolaire. Donc, la fin de l'été, avant septembre, on veut que les jeunes rentrent à l'école, soient vaccinés deux doses. C'est vraiment l'intention qui est donnée. Puis même des jeunes qui vont peut-être pouvoir l'avoir de manière prioritaire, les moniteurs de camp de jour. C'est le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, qui a précisé
très bonne
ça.
Idée, oui.
Excellente idée. Moi, en tant qu'ex-moniteur de camp
oui.
de jour, j'ai ça très à cœur. Puis c'est sûr que l'expérience de camp, là, pour avoir parlé à des moniteurs actuels là, qui travaillaient l'été passé, c'était le cauchemar. Là. Avoir à travailler avec des jeunes comme ça, des groupes d'enfants, qu'il faut que tu sépares, faire attention, mettre les masques, coller ou pas d'activité. C'était le cauchemar. Disons que si on peut au moins vacciner les moniteurs, ça va enlever un énorme stress sur ces gens-là.
Toujours sur le vaccin, celui de Moderna, on sait qu'on avait vu Pfizer qui avait sorti le chiffre là, impressionnant de 100% pour la protection chez les ados et Moderna, on n'est pas loin de ça.
Effectivement, 96% selon les premières études cliniques, une efficacité de 96%, pardonnez-moi, sur la première étude clinique donc du vaccin de Moderna chez les jeunes de 12 à 17 ans. Donc ça tombe à pic aujourd'hui en même temps où on commence à annoncer justement qu'on veut vacciner les jeunes de 12 à 17 ans. Sur 3235 participants, il y a le deux tiers qui avaient reçu le vaccin, un tiers le placebo, comme c'est fait d'habitude. Il y a eu 12 cas de COVID qui ont été déclarés à partir des 14 jours après avoir reçu la première dose. Donc, disons que ça semble assez concluant pour la vaccination pour les jeunes, encore une fois, là, un taux d'efficacité qui est très, très, très élevé. Moderna qui disent aussi en ce moment être en discussion parce que leur vaccin, pour l'instant, c'est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus dans tous les pays où c'est autorisé. Mais ils sont en discussion en ce moment pour justement abaisser l'âge, permettre aux plus jeunes de pouvoir recevoir le vaccin. Puis eux, tout comme Pfizer, ont déjà annoncé en ce moment qu'ils allaient demander des autorisations pour pouvoir vacciner les enfants âgés de 12 à 11 ans. Donc à partir là vraiment là des pas de 12 à 11 ans, de 2 à 11 ans, pardonnez-moi, donc
OK, là, pour les plus jeunes,
pour
vraiment,
les plus jeunes là, quasiment jusqu'au bébé. Donc c'est ça va être une prochaine étape. On n'est vraiment pas rendu là, mais disons que ça se profile quand même à l'horizon, il va falloir vacciner tout le monde éventuellement et il y a des études cliniques qui sont déjà en cours pour vacciner donc les plus jeunes de notre société.
À chaque 11 heures, on surveille le nombre de cas, si ça monte, si ça descend. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un plutôt bon bilan pour la province.
On est encore dans les mêmes moyennes. Il y a 907 cas qui se sont ajoutés aujourd'hui avec 7 nouveaux décès qu'on déplore. Mais dans les hospitalisations, 8 personnes de moins. Soins intensifs, même chose, 8 personnes de moins. Il n'y a pas de pic de cas là, régionaux. Je regardais Montréal, on est encore un peu en haut de 200. Chaudière-Appalaches encore autour de la centaine, Montérégie 120, mais sinon le nombre de cas ça reste stable, on est encore dans les moyennes, puis les hospitalisations baissent, même si elles baissent pas très vite, elles baissent lentement mais sûrement. Donc vraiment là, la situation qui est au beau fixe, ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles honnêtement là comme ça.
Oui, as-tu des régions qui ressortent
Non, c'est juste ça, c'est vraiment ça, pas là, c'est Montréal, Chaudière-Appalaches, Montérégie qui ont pas mal dans les plus hauts nombre de cas, mais ça reste honnêtement capitale nationale, 67 cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 67.
C'est ça. Je voyais juste ce que Bas-Saint-Laurent, je pense que c'est 66.
C'est vrai.
C'était
ouais, c'est
moins
sûr.
Bon.
Au
parce qu'on a
de
deux éclosions dans des usines, mais ça, c'est presque autant que Laval, là, qui est à 75 pour une population beaucoup plus petite. Bas-Saint-Laurent, ça fait un certain temps que ça va moins bien.
Mais ils sont déjà surveillés, hein, faut le dire, les mesures sanitaires qui sont resserrées au presque au maximum. Alors,
c'est vrai que ça prend des fois quelques jours avant de voir l'effet, là. Alors, on souhaite que ça baisse pour le Bas-Saint-Laurent, qui, on se souvient, il y a pas un mois, voulait passer au jaune. Ça a changé quand même très vite.
Ça change vite avec la COVID.
Un mot sur Gilbert Ozon?
Oui, parce que là, il y a une poursuite qui est intentée au civil, une autre après Patricia Tulas qui avait lancé sa poursuite déjà. C'est la réalisatrice Lynn Charlebois maintenant qui poursuit pour 1,7 million de dollars pour un viol allégué qui aurait été commis en 1982. Et là, on a eu accès un peu là, aux documents de cour à savoir quelle est cette histoire-là. Elle aurait rencontré la première fois M. Ozon qui n'était pas du tout encore le magnat de l'humour qu'il était jusqu'à récemment. Elle discutait d'un contrat avec lui de photographie pour le festival de la Grande Virée. Première fois qu'elle le rencontrait, il a prétexté dans la journée être trop occupé pour la voir. Il était allé souper, Gilbert Rozon, chez elle et son conjoint. Ils ont mangé du pâté chinois ensemble, même, ça le précise.
Okay.
Et par la suite, elle serait allée marcher dehors avec lui, le raccompagner pour une marche. Il aurait dit qu'il devait passer chez lui pour changer de chemise. Et lorsqu'il aurait été à l'intérieur, il se serait allumé un joint, l'aurait poussé vers la chambre et il l'aurait violé. Donc, c'est toute une histoire qui est racontée dans ces documents de cours-là. Évidemment, Charlebois, qui poursuit donc 1,7 million de dollars, entre autres, pour des dommages et psychologiques et à sa vie sexuelle et même à sa vie professionnelle. Elle dit que sur le plan du travail, par la suite, elle a toujours refusé tous les contrats qui étaient liés à l'humour. Elle a renoncé à réaliser, entre autres, la série 3 fois rien. Ça l'a privé de revenus substantiels. Donc, à moins d'un règlement à l'amiable, là, c'est une poursuite qui va être présentée prochainement devant un juge de la Cour supérieure du Québec.
Alors, on parlait des camps d'été hier et on en parlait aussi des moniteurs qui allaient se faire vacciner. Camp de vacances, je pense que les jeunes ont très hâte d'y aller. Un camp pédagogique. Il y aura ça cet été, qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé une série de mesures pour la réussite éducative cet été. Puis, en tout et partout, ça totalise 110 millions de dollars d'investissement. Donc, c'est de l'argent qui est investi, entre autres, pour la mise en place de camps pédagogiques pendant l'été. Pour ces camps pédagogiques-là, c'est une entente qui est conclue, un partenariat avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, 8,8 millions de dollars. C'est des activités pédagogiques, dans le fond, qui vont être déployées pendant toute la période de l'été. On dit que c'est fait, entre autres, là, pour réduire, atténuer les résultats négatifs du phénomène de la glissade, entre autres, l'été. Il y a beaucoup de jeunes qui décrochent beaucoup de l'école. Puis surtout avec l'année chamboulée qu'on a eue au niveau scolaire avec la COVID, ils veulent rattraper tout ça. Donc, c'est des animations d'ateliers de lecture. Il va y avoir une bibliomobile, des clubs de lecture, des camps de jour, justement, avec des volets pédagogiques, donc où on apprend des choses, des camps pour adolescents sur la motivation scolaire aussi, des ateliers de transition également entre le primaire et le secondaire pour aider les jeunes donc qui transitent en cette drôle de période. Puis il y a toutes sortes d'autres mesures, 60 millions pour un programme de tutorat qui va être mis en place pour l'hiver. Il y a pour les élèves dans les centres pour adultes également de formation professionnelle, 7,2 millions pour les aider aussi dans le tutorat. L'embauche d'agents en soutien qui vont aider aussi le lien entre l'école et la famille. On veut entre autres le renforcer puis détecter les cas problématiques chez les jeunes plus tôt. Ça, il va y avoir un autre point de presse jeudi par le ministre. Oui, c'est ça. Il a précisé tout ça là, aujourd'hui plutôt à son point de presse. Donc, c'est toutes sortes de ressources, là, toutes sortes d'argent qui est investi donc pour aider à la réussite scolaire. Aussi, peut-être que ça va te rappeler de très mauvais souvenirs, mais ils remettent en place les examens ministériels. Il avait été annulé cette année. Puis avec une pondération réduite, par contre, habituellement, c'est 20%, ça va passer à 10%.
Ça faisait peur, ça.
Oui, ça.
Des fois, pour rien, là. Mais...
Souvent pour rien, mais là, disons, la pondération est un peu là, descendue, amoindrie dans tout ça. Donc, c'est plein de mesures pour la réussite scolaire, dont ces camps pédagogiques pour l'été. Donc, ça risque d'être une option intéressante là pour les enfants qui en ont arraché un peu plus, si on veut, là, pendant l'année scolaire.
Le chantier des vies à Québec va être un peu plus occupé. Ils ont décroché un contrat.
Ben oui, l'un des deux gros brise-glace polaires dont veut se doter le gouvernement fédéral qui va au chantier des vies à Lévis. Donc, ils ont complété le processus de sélection. Ils vont devenir le troisième partenaire donc de la stratégie nationale de construction navale du gouvernement. L'autre qui ont décroché, c'est Seaspan à Vancouver. Donc, chaque navire, on estime que c'est à peu près 300 emplois de créés, 2500 autres en chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est des emplois qui sont créés de beaucoup. Évidemment, le maire de Lévis, Gilles Lehoulier, qui était très heureux de cette décision-là. Puis, on veut vraiment amener, là, c'est des brise-glaces niveau top mondial. Là, qu'on
okay.
On veut vraiment construire là, des bateaux massifs. Le premier brise-glace qui devrait être livré d'ici 2030. Donc, c'est sûr, c'est long à construire, ce genre de navire-là.
C'est pas à batterie, là, encore. Là.
Non. Okay. Puis toi, je pense que tu connais mieux que moi la qualité de ces gros navires-là qui, d'ailleurs,
ben, c'est ça, j'ai eu la chance de naviguer très rapidement sur l'Amundsen, qui est un peu le fleuron de la garde côtière canadienne, bateau scientifique qui a entre autres parcouru l'Arctique pour des recherches sur les changements climatiques pour la souveraineté du Canada et compagnie. Quoique un bijou là, ce navire là, ça commence à vieillir.
Il s'en vient vieux.
C'est effectivement le cas. Là.
D'ailleurs, le brise-glace le premier, il est censé venir remplacer le NGCC Louis Saint-Laurent. D'ailleurs, un autre brise-glace qui est censé être mis hors service en 2030. Donc justement, okay. On veut arriver là.
Il y en a qui sont en fin de vie, là.
Oui, il y en a qui sont en fin de vie. Puis disons que ça a une importance toute particulière, ces navires-là, étant donné que les ressources, le contrôle de l'Arctique va devenir un enjeu important. Ça fait longtemps qu'il y a des experts qui mettent en garde là sur le côté géopolitique, les intérêts de la Russie.
Il y a des bouts qui fondent, qui sont intéressants aussi pour le monde entier, qui va essayer de tirer la couverte de son bord. Et d'ailleurs, les Russes sont très présents. D'ailleurs, leurs brise-glaces nucléaires sont absolument gigantesques. Là. Ils sont encore plus gros que les nôtres.
Oui, ils ont fait des démonstrations aussi, je pense récemment, là dans les glaces de sous-marins nucléaires qui perçait la glace avec de la musique fanfare.
On n'est pas là, mais au moins on aura des nouveaux brise-glaces. En plus, construits à Québec, c'est une bonne nouvelle. La position des États-Unis, parce qu'on revient sur les vaccins, quand même un dossier particulièrement intéressant. Devrions-nous lever les brevets du vaccin là, pour permettre que le monde entier puisse utiliser ces connaissances développées par des compagnies privées au départ? Joe Biden approuve ça et ça a créé des vagues.
Oui, parce qu'il soutient ça, une suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins. Donc, pour que d'autres puissent reprendre un peu ce procédé-là et par la suite, bien évidemment, là, pouvoir produire eux-mêmes des vaccins. Là, il y a des gens qui appuient, il y a des gens qui sont moins d'accord. Du côté du président français Emmanuel Macron, là, qui jusqu'ici s'était montré assez froid à l'idée, maintenant semble soutenir tout ça. Il a souligné que, par contre, il va falloir continuer à donner des doses, il va falloir continuer à faire des partenariats avec les pays les plus pauvres, parce que même si on donne la recette, par exemple, les droits de propriété intellectuelle des vaccins à certains pays qui sont défavorisés, ils n'auront pas nécessairement les moyens de production vaccins-là.
Si je te donne le tas de papier, t'es pas capable de me faire un vaccin.
Oui. Puis c'est la même chose un peu pour tous les autres pays. L'Union européenne, c'est la première fois. Eux se sont montrés ouverts, eux aussi, à suspension de brevets. Même la Russie aussi, qui ont dit qu'ils soutiendraient une approche similaire. Ouais. Donc c'est sûr.
Mais je suis d'accord sur le fait que c'est différent là, de d'autres médicaments, puis un médicament sur l'hypertension. Là, on est dans une des pires crises qu'a traversé l'humanité. Le savoir de Moderna, de BioNTech, Pfizer, c'est la propriété du monde entier. Là. Et je pense que rendu là, vous ferez de l'argent sur d'autres projets. Il y a comme un peu dans une réquisition militaire. Là. À un moment donné, ton entreprise, elle se faisait... Tu fabriques des avions aujourd'hui, puis c'est tout. Là. Ton canage, tu le feras dans 5 ans. Mais c'est un peu ça. Là. Il y a urgence d'agir, puis je suis d'accord. Et je pense que les compagnies vont devoir suivre. Ouais. Mais il faut que ça serve à quelque chose.
Ouais,
si ça sert à rien, parce que t'as pas d'autre, à part voler des secrets, si t'es pas capable d'en produire, ça sert pas à grand chose.
Ouais, puis c'est ce que dit d'ailleurs le lobby pharmaceutique. Là. Pour l'instant, eux disent, ça donne rien, ça va pas accélérer la production de vaccins, il va pas y en avoir plus, il va pas y avoir une meilleure distribution dans les pays. Ils disent, pour l'instant, laissez-nous continuer à distribuer des doses, partager les doses entre pays, mais ne levez pas les droits de propriété intellectuelle comme ça. L'Allemagne aussi, qui sont réticents là-dessus, qui veulent absolument protéger ces droits-là. Mais dans tous les cas, si ça devait se faire, ceux qui sont chargés de la protection des brevets sur les vaccins, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Puis pour que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, prenne une décision, il y a besoin d'avoir un consensus parmi les 164 membres de l'organisation. Puis pour les experts, c'est des mois et des mois et des mois de discussion. Donc on est vraiment pas là en ce moment, mais c'est sûr que le fait que Joe Biden se montre favorable à cette mesure-là, disons que ça fait changer le poids de bord.
Et tu termines avec un super laser qui a été dévoilé.
Écoute, c'est une équipe de recherche coréenne. Puis moi, j'adore ce genre de gadget-là. Quand j'en entends parler, ça me fait toujours bien sourire. Chang Hee-nam, qui est l'auteur de ça, qui est un physicien du plasma, qui est spécialisé en sciences des lasers. Et là, lui, ça fait 10 ans qu'il travaille. Et là, on n'est toujours pas dans le sabre laser, mesdames et messieurs. Non, malheureusement. Non. On n'est pas non plus dans le pistolet laser. Mais après 10 ans, ce qu'eux ont fait, c'est un laser qui est d'une intensité telle qu'il brise tous les records. C'est 10 à la 23 watts par centimètre carré.
Okay, c'est beaucoup.
10 à la 23 watts, là, je vous donne une idée de ce que c'est. Selon l'auteur lui-même, c'est comme si tu prenais l'intensité du soleil, donc de toute la lumière du soleil, sur la planète au complet, sur la surface de la planète, donc s'il faisait jour sur la planète en entier, mais que tu la condensais toute cette lumière-là sur l'espace d'un seul grain de poussière, voire même d'une simple globule rouge.
OK, mais là, ça va détruire l'humanité? Créer un trou noir, ça me paraît un peu trop puissant.
Ben, c'est extrêmement puissant, mais ça arrive dans un millionième de seconde.
Okay,
c'est une seule pulsation lumineuse qui arrive extrêmement extrêmement rapidement sur justement un endroit de 10 microns. Là. C'est tellement petit où on l'applique, cette lumière-là.
Mais veux-tu pas me dire à quoi ça sert?
Ben c'est ça. C'est là qu'on se demande parce que ça a l'air complètement inutile, ce laser-là, ouais. Surpuissant, qui dure un temps microscopique. Ce qui est fascinant, c'est que ça peut aider pour traiter certains cancers, entre autres. On parle de pouvoir focusser ce laser-là.
En
là,
faisant exploser la personne.
Vous êtes guéri. Non, mais ça pourrait être traité, entre autres, là, sur certaines surfaces. Tu sais, des fois, les cancers qui sont trop près d'un organe, c'est extrêmement difficile. C'est une précision inégalée. Mais okay. le gros de cette recherche-là, entre autres, c'est que ce phénomène-là, là, d'un laser aussi puissant, d'une lumière aussi intense, c'est juste censé arriver dans l'espace. Entre autres, des jets de plasma qui proviennent de supernovas ou encore des explosions de trous noirs. Fait que d'observer ce phénomène-là, même si ça dure un millionième de seconde comme ça, extrêmement rapidement, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre certains phénomènes qui arrivent dans le profond de l'espace intersidéral. Donc, c'est fascinant.
Ah, effectivement, beaucoup de travail là-dedans de ce monsieur à suivre. Merci beaucoup, Alexandre.